Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Média.
Et on se retrouve dans un tout petit instant pour le 10h midi. Je recevrai Victor Meutlet pour la grande série de TF1 qui démarre ce soir, Grand Hôtel. On aura également avec nous Éric Revel, le patron d'Azur TV. On va parler chaîne régionale avec lui. Et puis Jean-Michel Cohen à 10h30, nourrir sa santé, comment orienter son alimentation pour une bonne et longue vie. A tout de suite.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Média.
Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver. Bonjour Gilles Gansman.
Bonjour Valérie.
Nous sommes le jeudi 3 septembre. Alors tout à l'heure, on va être en ligne avec Victor Meutlet dans quelques instants. On devait recevoir Alain-Fabien Delon qui a été hospitalisé hier soir. On lui souhaite un prompt rétablissement. Et on va parler de la nouvelle saga de TF1 qui démarre ce soir, Grand Hôtel. Vous allez voir, vous n'allez pas pouvoir décrocher. On va en reparler dans un tout petit instant.
D'ailleurs la question du jour, Valérie. J'imagine que vous vous souvenez d'Orage d'été, Avis de tempête. Vous savez, c'était la saga où les yeux d'Hélène, c'était
Dolmen.
Et puis également le Château des Oliviers sur France 2. Alors, est-ce que vous êtes nostalgique de ces grandes sagas? Est-ce que vous regrettez qu'il n'y ait pas plus de sagas à la télévision? C'est notre question du jour. Regrettez-vous les grandes sagas TV? Vous pouvez aller sur Twitter de Sud Radio et puis vous nous répondez oui ou non si vous êtes nostalgique. Vous êtes nostalgique, vous, des grandes sagas, Valérie?
Je sais pas, mais j'avoue que j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder Grand Hôtel.
Voilà, ah bah, voilà. Donc notre invité
qui est avec nous, Victor Meutlet, bonjour.
Bonjour Valérie, bonjour Gilles.
Bonjour, merci d'être avec nous. On vous avait reçu il y a un peu plus d'un an. En 2018, c'était pour Les Innocents, avec Jules Houplin. Et puis là, on est ravis de vous avoir. Alors c'est vrai, je l'ai dit, c'est Alain-Fabien Delon qui devait être avec nous et il a été hospitalisé en urgence. Donc merci d'être là, mais c'est pas un second choix parce que vous avez vraiment le rôle principal dans la série, enfin un des rôles principaux.
Ah oui, tout tourne autour de lui.
Moi, je dois vous dire, j'ai commencé à regarder en disant bon, c'est pas pour moi. Je me suis enquillé les 6 épisodes, il m'en manque 2 et je suis vraiment, j'attends la suite avec impatience. Il y a de l'amour, il y a du sexe, il y a de la trahison, il y a de l'argent, il y a du glamour.
Il y a du tatouage.
Il y a tout ce qu'il faut. Racontez-nous le rôle d'Anthony Costa que vous jouez, qui est très particulier. Racontez-nous comment vous êtes arrivé dans cette série déjà.
Déjà, je veux dire, ça fait plaisir que quand vous mettiez le premier épisode, vous sentiez obligé de regarder les 6. Ouais. C'est toujours un bon signe pour une série. Et finalement, moi, c'est un peu le même mécanisme qui s'est produit quand j'ai découvert les scénarios, que je les ai lus. Ouais. Et c'est ce qui a fait que je me suis engagé là-dedans. C'est qu'au début, j'avais 2 épisodes que j'ai lus très vite et j'ai vite demandé la suite, qui était au début pas tout de suite finalisée. Donc, j'ai pas pu avoir les 8 scénarios d'un coup comme je l'aurais voulu au début, parce que vraiment j'étais pris dans l'histoire, j'avais envie d'enchaîner. Mais après, une fois que j'ai tout découvert, j'ai pas hésité à m'engager sur la série. Et la série dans son ensemble me plaisait, le rôle aussi, je le trouve complet et c'est ce qui m'a plu.
Et vous vous êtes pas dit que c'était un peu too much, parce que c'est vrai qu'il y a tout, il y a tous les éléments dedans, de la trahison, de l'amour, quelques scènes de sexe même, on peut le dire, enfin assez osé même pour TF1 20h50, c'est du grand public, c'est populaire, ça vous a pas fait peur?
Non, ça m'a pas fait peur, c'est le parti pris de la série. C'est un pari de faire cette grande saga, et qui dit grande saga dit plusieurs intrigues, et moi c'est justement ce qui me plaît, c'est que il y a de la comédie, il y a des histoires d'amour, il y a même une intrigue politique, moi, que j'aime beaucoup, avec le personnage d'Hippolyte Girardot, notamment sur qui reprend l'hôtel, tout le monde manigance son truc dans son coin sans prévenir les autres. Et du coup, moi, c'est ce mélange des genres qui me plaît.
Et puis Valérie, il y a surtout le rapport entre le petit personnel et le grand personnel, c'est-à-dire que ça parle également des rapports sociaux qu'on peut avoir dans la société avec les riches et les pauvres, puisque lui va tomber amoureux de, on peut le dire, parce que ça va arriver rapidement dans le...
On le voit déjà dans les premiers regards.
Il y a le rapport, est-ce que lorsqu'on est au bas de l'échelle sociale, est-ce qu'on peut tomber amoureux de quelqu'un qui est en haut de l'échelle sociale? Ça raconte ça quand même aussi, Antoine Dufond.
Alors il faut dire que Grand Hôtel, c'est une série, c'est une fiction espagnole qui a cartonné, qui a été vendue dans, dans plusieurs pays. Ça se passait dans la série espagnole au 19e siècle. C'était un genre de Downton Abbey. Là, ça se passe sur la Côte d'Azur, dans, dans, dans un hôtel absolument magnifique. Le casting est, est époustouflant. Carole Bouquet, Solène Hébert, qui est formidable. Vous, Victor Meutlet, vous êtes aussi formidable. Vous êtes beau. Vous êtes tous beaux. Virgile Bramley, Alain-Fabien Delon, qui joue...
Il joue super bien.
Qui joue très bien. Qui est le troisième enfant de Carole Bouquet, qui joue le rôle d'un, d'un junkie un peu paumé. Il y a Hippolyte Girardot, vous l'avez dit. Annie Dupérez, c'est... Vous vous êtes tous croisés, forcément, à un moment. Comment ça s'est passé, d'abord, le tournage avec, avec Carole Bouquet? C'est impressionnant.
Alors, oui, c'est sûr, on s'est tous croisés à un moment, même si chaque personnage a, a plus de liens avec certains qu'avec d'autres. Moi, par exemple, Carole Bouquet, je n'ai pas d'intrigue directement mêlée à son personnage, mais oui, je l'ai croisée. Et oui, évidemment, c'est impressionnant parce que ce soit Carole Bouquet ou Hippolyte Girardot, quand un acteur ou une actrice a cette carrière-là, c'est qu'il y a un talent immense derrière. Et donc, quand on joue avec, on a envie d'être à la hauteur, c'est évident.
Ouais, mais vous, vous êtes pas mal non plus. Hein. Vous avez joué dans, dans Clem, dans Le Bazar de la Charité. Vous avez enchaîné quand même les très, très beaux rôles depuis...
On vous a porté chance.
Depuis, voilà, on vous a porté chance. C'est Sud Radio qui depuis Les Innocents.
Il y a eu un avant et un après mon premier passage à Sud Radio, voilà. C'est évident.
Non, mais vous avez eu de très très beaux rôles. Vous êtes jeune, vous êtes né en, en 97. C'est une très belle carrière. Hein. Vous avez envie comme rôle?
Je suis super content de ce qui m'arrive. Je n'ai pas forcément un descriptif de rôle précis dont j'ai envie, même si, moi je sais par exemple que j'aime... J'aime les rôles où il y a plusieurs choses à défendre. Là, typiquement dans Grand Hôtel, il y a à la fois l'enquête que mène mon personnage parce qu'il intègre l'hôtel
faut pas trop le dire.
On le comprend assez vite. C'est pas un vrai serveur. Il a une enquête bien précise à mener. Et en parallèle de cette enquête-là, il y a l'histoire d'amour qui est compliquée, notamment par rapport aux classes sociales dont parlait Gilles. Ouais. Et c'est ce double emploi qui moi me plaît, et c'est ce que j'aime généralement dans les rôles, c'est quand il y a plusieurs intrigues à défendre.
Oui, alors moi je voulais vous demander, alors faut savoir Valérie que TF1 a mis les moyens, déjà les réalisateurs de cette série, ce sont des réalisateurs cinéma ou de Balthazar ou de Profilage, donc qui ont...
C'est pas du cinéma.
Non, mais en plus, comme vous y êtes, mais en plus, et alors ce qui est assez incroyable, c'est que donc vous avez tourné dans un grand hôtel, les extérieurs qui sont à Nice, je crois, un hôtel qui était à Nice.
Oui, mais à tout, Saint-Jean-Cap-Ferrat. Ouais.
Saint-Jean-Cap-Ferrat, mais tout a été reconstitué en studio, les chambres, il n'y a rien qui a été fait dans l'hôtel, en fait, c'est ça. Dans un grand studio, vous tourniez, tout a été reconstitué.
Alors, tous les extérieurs sont dans le sud, ainsi que le hall de l'hôtel. Mais après, ce qui est cuisine, restaurant, chambre du personnel, ou alors les chambres luxueuses des clients, tout ça, on l'a tourné après sur Marne. Et c'est assez impressionnant. Moi, c'était marrant parce que c'est exactement le même studio que le Bazar de la Charité. Donc ce studio, j'ai pu le voir enflammé il y a un an, et puis là j'avais l'impression de rentrer dans un palace 5 étoiles, donc oui c'est différent. Et ça c'est le travail des chefs décorateurs là pour Grand Hôtel, c'est Ralph Najar qui a fait un travail de malade, et puis ensuite au montage ça se mêle parfaitement. C'était des fois marrant pour nous parce que quand un personnage sort, passe de l'intérieur à l'extérieur de l'hôtel, et ben la même scène on l'a tournée parfois à 2 mois d'intervalle, voire plus avec le Covid qui a stoppé le tournage. Donc c'était parfois compliqué dans le jeu, mais au final, au résultat, ça passe tout seul.
Vous avez des nouvelles d'Alain-Fabien Delon?
Oui, je l'embrasse d'ailleurs, comme vous l'avez dit. Il avait des petits soucis, il est à l'hôpital. Là. Je lui ai envoyé un message hier, ça avait l'air d'aller. J'ai regardé
Les
stories Instagram de ce matin. Il est toujours, mais bon, il a l'air d'aller bien quand même.
Très bien. Merci d'avoir été avec nous, Victor Meutlet. Donc, ce soir, sur TF1, Grand Hôtel, donc une saga comme on en a connu par le passé,
regarder.
Comme Les Yeux d'Hélène, comme Dolmen. Voilà, il y a tout. Et franchement, grande série populaire, grande saga populaire. Et vous serez captivés. Et puis, bravo pour le casting absolument époustouflant. Merci, Victor Meutlet. À bientôt.
Je vous fais un pari, Valérie. 4 millions.
À bientôt.
Je vous fais un pari, Victor. 4 millions.
4 millions, bah écoutez, on verra demain. Oui, moi je pense que ça va marcher aussi. On verra demain. Le zapping.
Sud Radio 10h midi média, l'instant zapping.
Alors Valérie, colérique et pas content du tout, le président Emmanuel Macron, il s'est attaqué au journaliste Georges Malbruno, un coup de sang contre ce journaliste du Figaro, en cause un article évoquant une rencontre qui aurait eu lieu entre notre président et le Hezbollah.
Ce que vous avez fait là, compte tenu de la sensibilité du sujet, compte tenu de ce que vous savez de l'histoire de ce pays, est irresponsable. Irresponsable pour la France, irresponsable pour les intéressés ici, et grave d'un point de vue déontologique. Vous m'avez entendu défendre les journalistes, je le fais toujours, mais je vous parle avec franchise. Ce que vous avez fait est grave, non professionnel et mesquin.
Et puis, évidemment, vous en parlerez dans votre deuxième partie débat, j'imagine, entre 11h et midi. Alors, ça fait un peu tâche au moment où on parle de la liberté d'expression et puis du procès des attentats de Charlie Hebdo. Alors, vous savez, Valérie, je ne sais pas si vous avez vu, la première journée a eu son premier moment de tension avec l'avocate Isabelle Coutant-Père, ouais, qui défend Ali Riza Paola, qui est le complice d'Amidi Coulibaly, et Quotidien de TMC était au tribunal.
C'est elle qui va créer le premier clash du procès, elle affirme à la barre. Si les services de renseignement avaient été sérieux, tout ça ne serait pas arrivé. Furieux, l'avocat de victime de l'hypercachère qualifie ce propos d'indécent. Donc tout le monde attendait des précisions à sa sortie.
Maître, votre intervention était indécente.
Bah écoutez, je ne réponds pas aux insultes.
Pour vous, c'est plus la responsabilité des services de renseignement que des auteurs présumés des faits.
Bah, bien sûr, évidemment.
Attendez, vous allez vous faire mal. Je n'aimerais pas qu'il y ait des blessés et des morts. Hein. Parce qu'on ne dise pas qu'ensuite, c'est moi la responsable. Voilà.
Eh bien, ça donne le ton de ce procès. Déclaration choc, Valérie, aussi celle de Yann Moix. C'était dans l'ordre des pros de CNews. Pour lui, le virus sert qu'à une chose, paniquer le peuple.
J'étais contre le confinement depuis le début. On a fait un effet zoom sur un virus parce qu'on n'a pas le vaccin. On s'aperçoit d'ailleurs que quand on va l'avoir, les gens n'iront pas se faire vacciner. Donc en fait, pour moi, c'est un non-événement. Il y a eu des épidémies qui étaient extrêmement graves. Ce qui est grave là, c'est qu'il y a eu des morts, effectivement. Ça, c'est toujours grave, un mort. Mais si on regarde en termes de statistiques, pour l'instant, le nombre de morts dans la population mondiale est de 0,05%. Bon, oui, il faut relativiser les choses. On a choisi de paniquer sur ce virus précis. Oui.
Voilà Valérie. Bon alors devant de telles polémiques, moi je vous propose qu'on se rassemble tous en écoutant la Marseillaise, enfin celle des candidats de Jean-Luc Reichmann.
De la pétanque, le jour de gloire est arrivé.
Pom, pom, pom.
Avec nous nos boules de pétanque, au JO on veut débarquer. À vos boules, frère Voulis, formez vos triplettes, tirons, pointons, que ce beau sport arrive au JO.
Pom, pom, pom.
Voilà, je pense qu'Éric Revel ne nous dira pas le contraire.
Sur la Marseillaise et la pétanque. Et
puis pour finir. La version de Gainsbourg.
Moi aussi.
Et pour finir ce zapping, Éric et Valérie, eh bien, c'est le coup de colère également qui se sont enchaînés donc dans ce zapping. On finit par celui de Pascal Praud. C'était sur CNews qui est revenu évidemment sur le renvoi de Geoffroy Lejeune de LCI.
Elle l'a écarté sans jugement, sans procès, sinon la curée médiatique qui a suivi la publication du dernier numéro de Valeurs Actuelles. C'est peut-être ça la vraie soumission, céder aux sirènes des minorités qui réclament des têtes et déboulonnent des statues. Félicitations à ceux qui ont pris cette décision, ils ont montré leur courage et leur colonne vertébrale. Je ne doute pas que la presse française se mobilise, que les sociétés de journalistes hurlent à la censure pour défendre un confrère injustement sorti de l'antenne.
Voilà, Éric Revel, bonjour. C'est une bonne
bonjour
transition.
Valérie, bonjour Gilles.
Merci d'être avec nous. Vous avez été patron de LCI, vous avez été patron de France Bleu, vous êtes aujourd'hui le directeur général d'Azur TV, une chaîne régionale qui diffuse surtout le sud de la France. Peut-être un mot avant de commencer à parler d'Azur TV sur l'éviction de Geoffroy Lejeune. Est-ce que vous l'auriez viré en tant que patron de LCI à l'époque ?
Bon, le contexte était un peu différent, mais ouais. Je partage assez ce qu'a dit Pascal Praud. Hein, ouais. La rapidité avec laquelle, finalement, on s'est jeté sur Geoffroy Lejeune, qui a reconnu maladresse. On verra ce que la justice française en pense, d'ailleurs. Hein,
puisque le parquet s'est saisi, effectivement.
A porté plainte et le parquet s'est saisi de l'affaire. On verra si c'est du racisme et donc si c'est un délit et donc condamnable. Mais c'est vrai que ça fait un peu tous aux abris dans cette affaire. Voilà, maintenant ça fait le bonheur d'autres chaînes puisque Geoffroy Lejeune participe à Balance ton poste avec Cyril Hanouna, émission que je connais bien.
Absolument, vous y avez participé à sa création. Voilà. Ouais.
Partagez assez le point de vue de Pascal Praud. Alors je serais moins grandiloquent, je sais que Pascal adore écrire des textes. Bon, voilà, après.
Mais bon, c'est un peu rapide comme éviction selon vous. Alors, Azure TV, le grand direct, tous les soirs à 18h30 que vous présentez, et vous dirigez à la fois la chaîne et vous présentez cette émission de débat. Vous avez recruté cette année Jean-Michel Apathy, Patrick Roger également, que nous connaissons bien à Sud Radio, Philippe Bouvard. Racontez-nous cette aventure.
Mais elle a tout d'une grande, cette chaîne.
Oui,
Valérie.
Oui, c'est devenu...
Ça pourrait être un slogan, mais je crois qu'il a déjà
été pris.
Et c'est devenu quasiment
une chaîne qui monte.
Une chaîne nationale. Vous avez même été hier cité par Laurent Gérard qui a évoqué Azure TV.
Oui, oui. Alors d'abord, bon, il y a ce grand direct qui est présenté en fait par le rédacteur en chef d'Azure TV qui s'appelle Nicolas Galup. Et cette émission, j'y participe. En fait, on traite bien sûr de l'actualité locale et régionale hein, parce qu'Azure TV, c'est en fait trois chaînes. Hein. C'est une chaîne dans les Alpes-Maritimes, une chaîne dans les Bouches-du-Rhône, une chaîne dans le Var. Il y a des programmes en commun que diffusent toutes les chaînes. C'est le cas du grand direct, Valérie. Et puis, il y a des programmes spécifiques à chaque local, parce que ce qui fait la valeur de ces chaînes-là, c'est précisément la proximité. Donc, ce grand direct, c'est quoi? C'est une heure d'info locale, mais qu'on fait décrypter, en fait, très souvent, ou par des régionales de l'État. Par exemple, Gilles Kepel, le grand spécialiste du Moyen-Orient, était avec nous hier, parce qu'au-delà du fait que c'est un grand spécialiste du Moyen-Orient et du terrorisme, c'est aussi quelqu'un qui est né à Menton, qui a ses attaches à Menton. Et donc, on accueille beaucoup de grandes personnalités également dans cette émission. Par exemple, Marion Maréchal nous a fait le plaisir de faire sa rentrée politique sur Azure TV. Vous savez qu'elle était en tête dans les élections régionales PACA à l'époque, devant la liste de Christian Estrosi. Eh bien, on a fait un tabac avec cette interview qui a été reprise un peu partout, y compris sur son Facebook personnel, où je peux vous donner le chiffre. Ça a fait 1 200 000 vues, voyez. Donc, en fait, c'est une tranche d'infos. Il n'y a pas que le grand direct, hein,
il y a des
magazines,
il y a des reportages sur le pain bagnat et sur les fêtes.
Le la Côte d'Azur. Et puis, il y a quelques émissions en commun, comme la grande émission, même si elle est déclinée sur chacune des chaînes, et le grand direct. Mais Azure TV, pour vous donner quand même une petite idée, c'est une chaîne qui couvre une région qui va de Monaco à Marseille. Donc, vous voyez, c'est vraiment tout le sud. C'est assez large. On a des équipes à Marseille, on a des équipes à Toulon. On a des équipes à Nice, on a un très très beau studio maintenant à Mont-de-Lieu. Quand je dis un très beau studio, Valérie, on en a connu des très beaux.
LCI, absolument.
C'est un peu du même tonneau, vous voyez, ce qui pour une chaîne d'information, une chaîne régionale, d'information, c'est pas mal.
Ouais. Alors Eric, pour juste nos auditeurs, Azure TV, on peut le capter où? Alors, on peut le capter sur les réseaux sociaux. Comment on peut regarder votre
alors,
chaîne
en fait,
pour ceux qui nous écoutent
dans le sud?
Vous avez
des numéros sur les box, sur... Nous sommes présents sur la Bouygues, la Bibox, sur Orange,
sur la Freebox,
etc.
Moi, j'ai sur la Pop.
Sur Freebox, nous n'y sommes pas. Alors, je n'ai pas les numéros en tête, mais ça se trouve. Alors, évidemment,
ça se trouve, avec la plupart des box.
C'est facile dans le sud avec la numérotation. Puis, on est présent aussi sur la TNT locale. Je crois qu'ici, c'est 31 à Nice où je me trouve. Et on regarde Azure TV, qui est une chaîne qui, historiquement, était une chaîne niçoise et qui, en fait, grâce à Hervé Reynaud, qui en est toujours le président, s'est développé et a eu la possibilité d'émettre grâce aux autorisations du CSA dans les Bouches-du-Rhône et dans le Var.
L'avenir, ce sont ces chaînes régionales. On voit que France 3, enfin France Télévisions, veut développer justement ce réseau.
Et puis BFM.
BFM. Quel est l'apport de ces chaînes et l'attrait pour les téléspectateurs?
Écoutez, je pense que d'une certaine manière, le mouvement des Gilets jaunes a montré qu'au-delà des problèmes de pouvoir d'achat, des problèmes de salaire, il y avait un problème de proximité entre ceux qui sont sur le terrain et puis les journalistes, les hommes politiques. Donc, je crois beaucoup à la proximité. Je l'avais dit quand je dirigeais France Bleu, Valérie, mais je crois beaucoup à la proximité parce que je pense réellement que chacun d'entre nous a des racines, françaises ou pas françaises, territoriales ou régionales, et que ces racines, quand on vit sur place, on veut qu'on en parle. Vous voyez, on a lancé une très grande campagne de communication à Marseille, à Toulon et à Nice autour d'Azur TV. Et notre baseline, comme disent les publicitaires, notre slogan, c'est « on parle de vous, on parle de vous, de vous ». En fait, c'est ça. Et je pense que les gens se reconnaissent de plus en plus dans des médias qui sont proches de leurs préoccupations, mais qui leur parlent aussi du pays. On va lancer une petite émission qui va s'appeler « Les Azuréens du bout du monde ». On a plein de Niçois, de Marseillais, de Toulonnais qui ont créé des boîtes, qui ont fait des belles aventures intellectuelles à l'autre bout du monde. Et bien, à chaque fois qu'on discute avec eux de « qu'est-ce que vous faites aujourd'hui au Canada ou en Argentine ?» c'est « mais est-ce que je ne pourrais pas parler d'abord du pays en premier dans votre émission ?» Bien sûr, vous allez parler du pays, de là où vous êtes. Et évidemment, cet Azuréen ou ce Marseillais ou ce Varois va appeler sa famille pour dire « je vais parler de notre village, mettez-vous sur Azur TV ».
Vous savez qu'il y a beaucoup de Niçois à Rio, je peux vous faire quelque chose autour de ça.
Si vous voulez, c'est vrai, il y a beaucoup de Niçois à Rio.
Oui, voilà. C'est pour partir là-bas, hein, Eric.
Merci beaucoup, Eric Revel. On vous retrouve régulièrement sur l'antenne de Sud Radio, j'allais dire de LCI, sur l'antenne de Sud Radio, évidemment Azur TV tous les soirs à 18h30. Et nous, je crois qu'on se voit demain où vous allez participer à un débat très bientôt. Voilà. Merci d'avoir été avec nous, Eric Revel.
Comment vous m'oubliez,
Valérie,
votre question. La question du jour, enfin. La question du jour, les gens ne regrettent pas les sagas à 67%. Oui, à 33%. On verra si c'est un succès d'audience demain.
Eh bien, on verra.
On verra.
Ça
vous a
cueilli
que j'aille fait vite. Hein.
4 millions. 4 millions, vous dites ?
Oui, plus de 4 millions. Ça va être un carton.
Bon, on verra. 4 millions ou 3. Allez, je vais être optimiste. Ah. On se retrouve, nous, dans un instant avec le docteur Jean-Michel Cohen. Les aliments qui sont bons pour notre santé. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi. Valérie Expert. Débat.
Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. Dans cette demi-heure, je reçois le docteur Jean-Michel Cohen, le nutritionniste. Bonjour, merci d'être avec nous, docteur.
Bonjour,
nourrir
Valérie.
Sa santé, comment orienter son alimentation pour une bonne et longue vie, ça paraît aux éditions First. Alors c'est vrai que depuis le début de l'épidémie de Covid, on nous donne des recettes, des conseils pour booster notre immunité. Alors je pense que ça ne veut pas dire grand-chose, booster notre immunité, mais déjà porter le masque, mais vous ne serez peut-être pas d'accord. Et ensuite, une bonne hygiène de vie et une alimentation équilibrée peuvent nous aider à rester en bonne santé, et c'est ce que nous dit ce livre.
Oui, enfin, il faut que je vous explique qu'à la base, justement, c'est un livre que j'ai écrit pour contrarier tous les vendeurs de solutions miracles, type le curcuma, la grenade, les bédakai, les bémachin, où on vous raconte que si vous mangez ça, vous allez vous porter mieux, vous serez en bonne santé. Et je vois avec beaucoup d'étonnement les gens manger religieusement tous les matins leurs 6 petites amandes à côté de leur café. Ils aiment pas ça. Ils ont simplement lu que c'était bon pour leur santé. Ils savent pas pourquoi. Mais ils les mangent alors qu'ils n'en ont pas besoin et que les amandes sont des produits extrêmement riches, extrêmement gras, et que si elles ont un effet bénéfique, par contre sur le bilan énergétique global, ça va être pas très très bon.
Mais vous dites quand même qu'il faut en manger.
Dis qu'il faut en manger, mais dans le global de ce livre, c'est-à-dire où j'explique qu'en fait il faut s'appuyer sur les raisons pour lesquelles on a envie d'améliorer sa santé. Oui. Et il y en avait 4 ou 5 grandes. Améliorer son système cardiovasculaire, pas seulement pour l'infarctus. Quand on parle du cancer, les gens ne savent pas qu'on meurt jamais du cancer. On meurt du développement du cancer car il envoie une espèce de réseau vasculaire tout dans le corps pour inonder le corps. Et si vous avez la capacité de retenir la création de ces vaisseaux ou d'améliorer la qualité de vos vaisseaux, alors à ce moment-là, vous serez efficace. Et on va retrouver effectivement des produits tels qu'on les connaît, les baies rouges, les oméga-3, l'huile d'olive, etc. Quand vous voulez améliorer votre immunité, non, j'ai été un des premiers effectivement à dire que si vous vouliez améliorer votre immunité, ce qui ne signifie pas guérir du Covid ou l'empêcher de se développer, eh bien, il suffisait de manger, je vous l'avais raconté, il me semble, du piment, de l'ail, des crucifères et champignons. Tout ceci, c'est sur un argumentaire scientifique. Mais c'est-à-dire que ce n'est pas sorti de ma tête.
Oui, c'est ça. C'est réellement parce que pourquoi vous faites haro sur les amandes ou le curcuma en particulier ?
Sur les amandes, parce que je souffre que les amandes valent selon la production entre 550 et 750 calories, 750 calories pour 100 grammes, que les gens se mettent au régime, par exemple, qui vont se taper 40 grammes d'amandes, c'est-à-dire 300 calories, l'équivalent d'un cheeseburger. Ouais. Donc, je ne comprends pas pourquoi on fait ça. Alors, certes, on peut manger des amandes. D'ailleurs, je le signale, les noix sont bien meilleures que les amandes. Donc, et si on prend 20 grammes de noix tous les jours, effectivement, on a une amélioration du système cardiovasculaire. C'est la même chose pour tout le reste. Je m'amuse pendant cette promotion à promouvoir des produits dits tabous. Hier, j'étais au restaurant.
Le jambon de Parme.
Le jambon de Parme et la bière. J'étais au restaurant et il y a un gars qui m'a, de la terrasse qui m'a regardé. Je vous ai écouté et qui m'a dit « C'est bon pour ma santé ». Il a bu sa bière. C'était pas mon intention.
C'est pas exactement mon intention. Il faut lire le livre pour comprendre effectivement.
Voilà, mon intention.
Et puis, il y a une posologie à la fin de, de chaque chapitre. Et vous abordez, effectivement, vous le dites, il y a plusieurs chapitres. Il y a le microbiote, on va en reparler, le système vasculaire, l'immunité, les cellules souches, le code génétique. Vous donnez des recettes à chaque fois qui sont assez simples et qui donnent envie de se mettre à cuisiner. Est-ce qu'il y a des aliments santé?
Il y en a plein. En fait, la plupart d'entre eux sont relativement santé. Il y a des aliments qui sont pauvres. Par exemple, je le dis, ça va faire grand plaisir aux végétariens, la viande est un produit pauvre. Ouais. La viande, c'est un complexe de protéines, de vitamine B12 et de fer. C'est un produit pauvre. Mais il y a des aliments qui sont riches en termes de santé. Quand on regarde, vous venez de parler du fromage, il y a deux fromages que je voudrais mettre en valeur. Quand on regarde le gouda et les mimolettes, la mimolette, on se rend bien compte qu'on a une amplification de la qualité du microbiote. Et encore une fois, tout ce que je vous raconte, je ne l'ai pas inventé, c'est pendant un an, j'ai fouillé tous les articles qui étaient faits par les instituts de chimie, de biochimie, de médecine, sur la qualité des aliments. Donc, mon boulot, c'est justement de montrer aux gens qu'on peut faire des bons repas, agréables à consommer, en travaillant pour sa santé, sans tomber dans les produits classiques dont on nous rabat les oreilles en permanence, ou qui sont pseudo-diététiques et qui ne le sont pas vraiment.
C'est quoi le microbiote? Parce qu'il y a des modes, j'ai l'impression qu'il y a des modes.
C'est
microbiote.
Plus qu'une mode.
Non, mais le microbiote, on n'en entendait pas parler, moi ça fait 2 ans, un truc comme ça, dont on nous parle de ça. On a connu le succès du livre sur l'intestin, qui parlait évidemment aussi du microbiote, mais c'est quoi peut-être pour nos auditeurs le microbiote?
Cette jeune fille, cette interne en médecine a vulgarisé le sujet, mais elle a raison sur le microbiote. À l'heure actuelle, le microbiote, c'est le sujet sur lequel il y a le plus de publications médicales dans le monde. Pourquoi ? Le microbiote, c'est un ensemble de bactéries qui se retrouvent à la fin de votre intestin, qu'on pensait être simplement un complexe bactérien, mais en réalité, on se rend compte qu'il est très influent sur un certain nombre de maladies, à la fois pour les déclencher, pour les prévenir, et peut-être maintenant pour les guérir. Et il y a des expérimentations qui sont en cours pour essayer de faire des transplantations
fécales,
de microbiote
pour
améliorer des maladies complètement surprenantes, comme le Parkinson, la maladie d'Alzheimer. Alors, on en est au début de ces recherches, mais on voit bien qu'il y a une voie de recherche qui est extrêmement importante. On arrive à isoler les bactéries et on arrivera à un moment, au lieu de manger n'importe quel probiotique, à donner des probiotiques personnalisés aux gens.
Et alors, on a une auditrice 0826-300-300 si vous voulez poser des questions au docteur Jean-Michel Cohen qui est avec nous en studio sur Sud Radio. Bonjour Maria.
Oui, bonjour Valérie, bonjour Jean-Michel.
Bonjour.
J'ai deux petites questions à poser à Jean-Michel.
Allez.
Voilà, donc j'y vais.
Allez-y.
Alors voilà, moi, en ce qui me concerne, moi Jean-Michel, donc j'ai bien entendu ce que vous dites et je suis tout à fait d'accord, vraiment du fond du cœur. Je respecte en ce qui me concerne les conseils de diététique avec gourmandise depuis plusieurs années. Et depuis 4 ans, moi j'ai eu un problème de santé, j'ai été opérée d'un cancer du sein et je privilégie également le plus possible l'agriculture raisonnée et biologique. Voilà. Mais en ce qui me concerne, je suis désolée par le prix élevé de ce choix, car même en réduisant de moitié ma consommation d'avant, cela reste vraiment encore cher. Et j'ai deux questions à vous poser. J'ai réfléchi, moi je me suis posé la question, Jean-Michel, et j'aimerais avoir votre avis. Si la France ne produisait que de l'agriculture raisonnée et biologique, pensez-vous que la santé des Français s'en trouverait améliorée?
Alors, non, je pense pas. Je pense que, si vous voulez, le vrai problème des Français aujourd'hui, c'est la diversification alimentaire et c'est la consommation excessive de produits déjà tout préparés.
Voilà.
Quand vous regardez la consommation des produits bio, vous vous rendez compte qu'il y a pas mal de Français maintenant qui achètent des produits bio. Le seul problème, c'est qu'en fait, ils noient ça de façon irrationnelle dans une alimentation qui elle-même n'est pas très bonne. Donc je pense que si des Français s'alimentent alimenté correctement, on aurait plus de résultats. Maintenant, pour le bio, je veux pas être complètement négatif et vous faire croire que je suis anti-bio. C'est pas du tout le cas. C'est simplement que je considère que le bio aujourd'hui, c'est une façon de renforcer le désir de l'ensemble de nos concitoyens vers l'écologie. Et ça, c'est plutôt pas mal parce qu'on a tous envie de respirer un air pur, de boire de l'eau propre, etc.
Mais est-ce qu'intrinsèquement, il est prouvé que le bio est meilleur pour la santé ?
Non, c'est faux. C'est un mythe. Il y a des gens qui ont peut-être intérêt à faire croire ça. Aujourd'hui, on ne peut pas vraiment démontrer ça. Le bio n'est pas meilleur pour la santé. Simplement, l'alimentation. Par exemple, vous avez dit que vous aviez un cancer du sein. Eh bien, dans ce cas-là, moi, je vais faire attention et je vais essayer de consommer des fruits rouges. Je vais essayer de consommer de la bière. Mmh. Je vais vous faire plaisir, vous allez voir. Ouais, je vais consommer du chocolat noir. Ouais, je vais consommer de l'huile d'olive. Mmh. Je vais prendre des pommes. Je vais prendre du soja. Je vais prendre du thé vert. Et je vais prendre des tomates. Et j'accompagnerai ça de temps en temps avec un verre de vin rouge. Mmh. Voilà comment vous allez protéger votre système vasculaire. Et par-dessus tout, pour le cancer du sein, vraiment, vraiment, là, c'est une démonstration scientifique globale. Il y a une suppression, une limitation extrême du sucre. J'entends les sucres rapides, hein, bien entendu, Maria. Pas les pommes de terre, ni les pâtes.
Ouais, les sucres,
et là, je pense que vous pouvez améliorer votre capacité à vous défendre. Je dis et je répète, il n'y a pas d'aliments anti-cancer. Il y a des combinaisons alimentaires qui renforcent votre santé pour essayer de vous protéger et aller jusqu'au bout d'une longue vie, je l'espère.
Vous aviez une autre question, Maria ?
Oui, voilà, la question que j'aurais posée à Jean-Michel, justement, par rapport à nos politiques, comment encourager et quelle serait la meilleure politique en termes de diététique et d'alimentation? Qu'est-ce qu'on pourrait proposer en France pour améliorer la santé de tous?
Commencer depuis l'école et modifier la restauration collective. J'arrête pas de le dire, la restauration collective, il y a presque un repas sur quatre qui est pris à l'extérieur. La restauration collective, et je parle de la restauration, les cantines, les restaurants d'entreprise, etc. Essayez de l'améliorer considérablement. C'est quand même honteux. Vous avez déjà été à l'hôpital, j'espère pas pour vous, Maria. Vous avez vu ce qu'on vous sert à manger? Mais c'est franchement une honte. Donc les gens mangent pas. Donc au final, on a servi un plat équilibré nutritionnellement que les gens ne mangent pas, donc ils ont pas mangé, donc ils sont en déficit nutritionnel. Donc voilà. J'arrête pas de le dire. Madame Macron dit qu'elle s'en occupe avec un hôpital parisien pour essayer de vendre à la restauration collective ce qu'on appelle les repas toqués, c'est-à-dire des repas goûteux, mais on a l'impression que ça avance pas. Bon, il y a des excuses avec l'histoire du petit Covid, quoi. Ouais.
Bon, on va marquer une petite pause. Merci, Maria, de vos appels. Et puis, on revient dans un instant avec le docteur Jean-Michel Cohen. Nourrir sa santé, comment orienter son alimentation pour une bonne et longue vie. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Débat.
Avec vous sur Sud Radio, avec le docteur Jean-Michel Cohen, nourrir sa santé, comment orienter son alimentation pour une bonne et longue vie aux éditions First. Un livre concret, pratique, avec beaucoup de recettes, beaucoup d'idées de recettes. Et puis, j'ai envie de vous dire, ce sont des choses assez simples à comprendre, des conseils d'hygiène. Mais il y a un aliment qui revient quand même dans tous vos chapitres, c'est le brocoli.
C'est pas de ma faute, puisque j'aime pas ça. Donc, toute la famille des crucifères, donc ces produits verts, on va citer le chou vert, les brocolis, mais aussi les choux de Bruxelles, etc., sont des produits qui alimentent à la fois le microbiote, mais en même temps qui ont des propriétés, des nutriments à l'intérieur, qui sont des nutriments qui sont bons notamment pour l'immunité et pour le système cardiovasculaire. Donc ça veut dire que c'est vraiment un super aliment, ça fait longtemps qu'on le sait. Et même les gens, alors là c'est une démonstration, c'est vraiment une preuve scientifique. On a considéré que les gens qui en mangeaient trois fois par semaine une ration de 200 grammes, les hommes en particulier, avaient une prévention meilleure. Alors, sur le cancer de la prostate, comment on peut dire ça? On fait simplement des interrogatoires alimentaires, on regarde ce qu'ils ont mangé pendant les 20 dernières années, et on avait observé que les mangeurs de crucifères, donc qui en mangeaient régulièrement, c'était des gens qui développaient moins souvent le cancer de la prostate. Voilà, tout ça, c'est ce qu'on appelle les preuves scientifiques jusqu'au moment où on va élaborer autre chose, c'est qu'on va fabriquer des médicaments à partir de ces aliments, mais c'est quand même meilleur de les manger plutôt que de se taper des gélules.
Ah bah oui, c'est ça ce que j'allais, parce qu'il y a beaucoup de questions sur les compléments alimentaires. Est-ce que c'est bien? Est-ce que ça sert à quelque chose? Ou est-ce qu'il vaut mieux manger correctement et équilibré?
Si vous avez une alimentation variée, équilibrée et suffisante, ce qui est quand même le cas dans le monde occidental pour 95% d'entre nous, avec 5% de gens qui ont peu de moyens et qui n'y arrivent pas, vous avez en principe tout ce que vous avez dans la, tout ce que ce dont vous avez besoin dans votre alimentation. Si par contre, vous avez un régime alimentaire qui est déséquilibré, si par contre vous mangez mal, alors oui, les compléments alimentaires sont efficaces parce qu'ils vont combler des carences que vous avez suscitées parce que vous avez manqué de certains aliments. Dans ces cas-là, c'est correct. Mais ce que j'observe, c'est que la plupart des gens, ils se tapent des compléments alimentaires à l'aveugle. Ça veut dire, ah, bah, tiens, je vais me prendre un peu de vitamine, tiens, je vais me prendre un peu de ce produit-là, de perlimpinpin, tiens, je vais... Et puis, il y a un marché autour de ça, il y a un commerce. Hein, ça veut dire que les gens tentent de vous séduire en les prenant. Donc, vous les prenez parce que vous dites, si ça ne fait pas de mal, ça peut peut-être ça faire du bien.
Mais enfin, ça fait du mal à votre porte-monnaie, quoi.
Voilà, ça fait du mal à votre porte-monnaie. Ceci dit, ce n'est pas très dangereux. L'époque où on tapait sur les compléments alimentaires est révolue. On a la démonstration maintenant qu'en dehors de la vitamine A, on n'a pas, c'est pas grave si on dépasse un peu la dose qu'on devrait consommer.
Vous donnez ce qui est plutôt pour une fois, enfin c'est pas pour une fois pour vous, c'est plutôt intéressant, c'est la posologie, c'est-à-dire la quantité, parce qu'on nous dit manger de l'ail, manger du curcuma, manger des noix, etc. Vous dites bah voilà, choucroute par exemple, la choucroute c'est un élément. Vous parlez de ces aliments fermentés qui sont très bons justement pour le microbiote, une à deux fois par semaine. Yaourt aussi. Très important, les produits laitiers.
Ça, c'est simplement parce que les articles, quand j'ai répertorié les articles médicaux, à chaque fois, ils donnaient des quantités. Ouais. Et donc, j'ai transformé ces quantités en portions par semaine. Et d'ailleurs, ça me fait assez rigoler parce que j'ai eu toujours sur un live hier sur les réseaux sociaux, il y a une dame qui m'a dit, vous savez, moi quand j'ai mal au ventre et je suis ballonné, je bois un verre de bière et ça passe. En fait, elle a trouvé un remède, c'est simplement qu'elle a pris une forme de probiotique toute seule.
Et la bière sans alcool, c'est bien.
Voilà,
ou pas,
et elle
c'est
peut prendre de la bière. Absolument, vous pouvez prendre de la bière sans alcool. Mon boulot, c'est pas de faire picoler bien les Français aujourd'hui, c'est de dire que certains aliments pris raisonnablement ne posent pas de problème. Donc c'est un verre de vin par jour, un verre de bière par jour, et même le cidre. Je veux dire, le cidre qui est un grand oublié. En fait, le cidre, c'est très intéressant. C'est quand même fait à partir de la pomme. La pomme est un super produit. C'est vraiment un super produit. Ça fermente également. C'est vachement intéressant d'avoir ça.
Les yaourts, c'est yaourt, fromage blanc, yaourt au bifidus. Il y a des choses qui sont mieux que d'autres.
Écoutez, ça, c'est pas mal. Mais c'est simplement, on a changé de bactérie pour fermenter le lait. Et on attribue à cette bactérie des propriétés. Donc, effectivement, c'est la voie du microbiote. Quant à dire aujourd'hui qu'on peut affirmer que Ophilus ou Lactophilus soit meilleur que Lactobacillus, personne c'est peut, pas du tout certain, mais c'est possible. Et je sais que Danone, pour les citer, a acheté une société qui travaille justement sur les probiotiques pour savoir, parce que ça les intéresse, puisqu'ils utilisent ça énormément, pour savoir justement s'ils peuvent pas créer cette forme de produit santé. Souvenez-vous qu'on a critiqué au moment de Lactimel, on a critiqué ça tous, on s'est moqué d'eux. En fait, ils étaient précurseurs de l'histoire. Et aujourd'hui, moi, je conseille à tous mes amis et à tous nos concitoyens de consommer régulièrement de temps en temps du lait fermenté qui s'appelle le lait ribot si vous êtes breton et c'est un très bon lait, ou qui s'appelle le kéfir pour ceux qui connaissent le kéfir, voire même le kéfir de fruits. Donc c'est-à-dire faire fermenter des fruits.
Faire fermenter les fruits. Alors il y a effectivement, vous avez évoqué la bière, le jambon de Parme. Alors ça, j'avoue que c'est quelque chose d'assez étonnant. C'est un peu de la provoque. Vous aimez bien la provoque. Le chocolat, on le savait aussi. Le chocolat à plus de 75% qui a
le cacao. Pour les polyphénols notamment. Pour le jambon de Parme, ce qui m'a fait rigoler, c'est qu'il y avait tout un article promotionnel qui n'était pas italien sur l'intérêt de consommer ces jambons de très haute qualité, le jambon ibérique.
Mais pourquoi de Parme et pas ibérique, justement ?
Si, les deux.
Ceux qui sont nourris,
soit avec des châtaignes, soit avec des noisettes, et qui donc vont développer dans la chair de l'animal beaucoup plus d'oméga-3 que les autres jambons. Donc, de fait, le jambon de Parme, qui n'est pas une catastrophe diététique, entre nous, c'est du jambon desséché, salé. Le jambon de Parme devient un produit aussi intéressant, peut-être un peu moins, mais aussi intéressant quand même que certains poissons gras. Et si vous n'aimez pas le maquereau, la sardine, le saumon et le thon, vous avez une alternative à prendre un melon qui est riche en vitamine A, puisqu'il a une couleur orangée, avec une tranche de jambon de Parme, et à arroser ça avec... Mais là, c'est la cuisine, ce que je vous fais. Là. Avec un demi-verre de vin, c'est pas mal.
Mais il y a beaucoup de recettes. On reconnaît le gourmand qui est en vous. Vous dites, à la fin de votre introduction, n'oubliez jamais qu'un seul aliment ne vous évitera pas la maladie et ne pourra pas vous guérir. Les aliments ne guérissent pas. Il faut...
Les aliments font de la prévention.
Font de la prévention et le bon sens, c'est-à-dire manger des légumes frais, de saison...
C'est le bon sens populaire, mais quand je lis des fois des articles où on dit voici des aliments anti-cancer, mais non, c'est faux, ouais. C'est archi-faux, ne mettez pas des gens dans l'embarras pour aller vendre trois bouts de papier, c'est pas correct.
Et c'est le j'ai envie de dire la réhabilitation aussi de tout ce qui est légumineuses, les farines de pois chiches, parce qu'on parle beaucoup des fibres. Moi, je sais jamais ce que c'est que les fibres. Quand on dit manger des fibres, c'est quoi manger des fibres ?
C'est la part de l'aliment qui ne sera pas digérée. C'est-à-dire que quand vous allez absorber l'aliment, normalement, la quasi-totalité de l'aliment, il est coupé en tout petits bouts et ça va repasser dans votre sang. Les fibres ne passeront pas dans le sang. Elles vont aller jusque dans l'intestin, justement, pour créer un état de fermentation. C'est la putréfaction et elles seront éliminées par les sels. Donc, les fibres, elles présentent plein d'intérêts. Un, elles limitent l'absorption du cholestérol et elles permettent d'améliorer les diabétiques dans la mesure où ça réduit l'absorption du sucre également. Troisièmement, elles favorisent le transit intestinal. Elles évitent donc les cancers colorectaux. Et quatrièmement, elles sont remarquables pour le système cardiovasculaire, justement à cause de ce système de protection, mais aussi à cause du microbiote, parce qu'elles vont fermenter, créer du microbiote et améliorer l'immunité. Donc, il faut se taper des végétaux. Ça fait un an que j'arrête pas de dire il faut déprotéiniser l'alimentation. Je ne suis pas le seul. Il faut végétaliser un peu plus. Alors, les végétariens vont vous dire qu'il faut végétaliser totalement.
Ils sont en meilleure santé, les végétariens ?
Les études qui ont été faites montrent qu'il y avait une espérance de vie qui était 25% meilleure que les non-végétariens, mais la restriction à cette étude, c'est que les auteurs de l'étude se sont demandé si c'était pas aussi le fait que les végétariens ont souvent une excellente hygiène de vie, font du sport, ne fument pas, ne boivent pas d'alcool. Voilà, il y a un ensemble de choses. Et je le répète, pour tous ceux que ça intéresse, chaque fois qu'on a parlé des régimes crétois et méditerranéens, on a omis de parler d'un événement, ce sont des régimes à faible valeur énergétique. La plupart des études qui ont été faites sur le régime crétois, on a remarqué que les gens qui suivaient ce régime, en tout cas dans leur pays, étaient à 1800 calories, c'est-à-dire 10 à 20% inférieurs à la valeur calorique traditionnelle. Ouais. Donc, et ça, on ne le dit jamais. Donc ça veut dire que la limitation alimentaire associée à la bonne qualité de l'alimentation, vous irez jusqu'au bout de votre vie en bonne santé. Et quand je dis ça, je ne suis pas Monsieur Miracle et je ne suis pas professeur Foldingue. Je raconte la vérité.
Une chose autour des gourous hier avec Georges Fenech et sur le fait que la santé est aujourd'hui... l'un des endroits où il y a le plus de
gourous et d'escroqueries
et que la santé et le jeûne, il parlait du jeûne, alors on vous pose à chaque fois la question, vous l'évoquez dans le livre.
Pour vous faire une confidence, j'en ai parlé avec lui puisqu'il m'a questionné exactement sur le même sujet mais dans le privé. Un jeûne de 48 heures, on a fait des expériences sur des animaux qui ont montré que ces animaux, quand on leur donnait une chimiothérapie s'ils étaient cancéreux, un jeûne de 48 heures bonifiait la chimiothérapie, donc améliorer la qualité de la chimiothérapie. On n'a pas reproduit ça chez l'homme. Un jeûne de 48 heures n'est pas dangereux. Un jeûne de 7 jours, comme il se fait de temps en temps dans certains endroits, sans surveillance médicale, avec des amateurs et chez des gens dont on n'a pas testé la bonne santé, se révèle possiblement dangereux. Pourquoi ? Parce que quand vous ne mangez pas pendant 7 jours, ce qui va se passer, c'est que le lapin mange du lapin. Ça veut dire que vous allez en fait manger, sans vous en rendre compte, mais vous allez manger votre propre corps pour fournir à votre organisme de quoi lutter contre... lutter tout court pour
pas,
vivre.
Oui, ça n'a pas vraiment de...
Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. 48 heures peut-être, on verra.
Il n'y a pas d'aliment magique, on le comprend bien. Il y a un ensemble, hélas.
Vous savez, je vais vous couper deux secondes pour vous dire, il y a quand même des aliments magiques. Ouais. On a beaucoup parlé depuis ces dernières années de la méditation, du plaisir de vivre, de la joie, etc. Ouais. Le fait de bien manger aussi donne une forme de joie qui probablement impacte notre santé.
Bien sûr.
Donc ça veut dire que c'est important de ne pas tomber dans l'orthorexie.
Il y a tellement d'injonctions contradictoires, de modes, qu'on a parfois du mal à s'y retrouver.
Monsieur Macron vient de dire récemment que d'avoir libéré la parole dans les réseaux sociaux de cette façon-là, donnait du crédit à tout le monde. Et on vit dans une société à l'heure actuelle où c'est l'opinion qui fait la connaissance et ce n'est pas la connaissance qui fait la connaissance. Ouais. Encore qu'avec cette affaire du Covid et cette bagarre médicale, on n'a pas fait grandir la médecine beaucoup. Hein.
Non, alors des recettes, hein, risotto safrané de quinoa aux asperges et champignons. C'est facile, je vois Gilles qui est resté dans le studio et qui dit « Ah, mais moi, je ne sais pas cuisiner. » C'est hyper facile. On peut prendre des produits surgelés, des légumes surgelés chez Picard.
Mais je suis tout à fait pour. C'est un débat entre ma femme et moi quand je suis au régime. Je prends des légumes surgelés parce que je n'aime pas éplucher les légumes. J'explique que sur le plan gustatif, oui, il y a une perte de la valeur organoleptique. C'est certain.
Mais au niveau nutritionnel,
c'est au moins égal et très souvent supérieur, simplement parce qu'un légume surgelé, il a été arraché, congelé immédiatement, donc il n'y a pas eu de déperdition de vitamines à l'air.
alors qu'un légume frais, ben, il est passé de l'agriculteur au grossier, à la coopérative, puis au grossiste, puis au détaillant, puis chez nous, puis on l'a gardé 15 jours. Et souvent, on mange des produits qui ont un mois et demi, et donc les vitamines, on a perdu 60 à 70% des vitamines et des nutriments.
Champignons farcis à l'ail, carottes croquantes au jus d'orange, ça fait partie des recettes. Curry de lentilles au poivron et piment, il y a effectivement, il y en a pour tout le monde.
Bah le poivron, c'est un truc miraculeux, je veux dire. Vous voulez une recette santé, mais la ratatouille, c'est un des plus beaux, une des plus belles recettes qui existent. Vous mélangez des produits verts comme tous les crucifères, que ça soit des choux, du choucroute, même des concombres si vous voulez, avec des produits rouges qui sont des tomates ou des poivrons, légumes le plus riche en vitamine C. Vous les faites revenir à l'huile d'olive, vous avez un plat santé. Voilà.
Et pour vous, j'ai les toasts aux rillettes de sardines, hyper facile à faire et très bon. Allez, merci Jean-Michel Cohen, nourrir
merci
sa santé, c'est passionnant à lire parce que j'ai appris beaucoup de choses, comment orienter son alimentation pour une bonne et longue vie, et c'est paru chez First Edition. On se retrouve nous dans un tout petit instant pour commenter l'actualité, à tout de suite.